Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la première cause d'hospitalisation dans la plupart des pays de la zone Afrique de l'OMS, région où cette maladie constitue la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme, infection parasitaire qui concernait 249 millions de personnes à l'échelle planétaire en 2022, 94% de ces cas concentrés dans la seule région africaine. Aujourd'hui, après des années de résultats plutôt encourageants dans la lutte contre le paludisme, la riposte est freinée par plusieurs facteurs préoccupants, la résistance au traitement, le réchauffement climatique et la multiplication des zones de crise humanitaire et sécuritaire impliquant des déplacements de population. D'où l'importance de poursuivre les efforts en matière de recherche, de prévention, de sensibilisation pour mieux identifier les symptômes, diagnostiquer, favoriser une prise en charge précoce. Proposer des solutions adaptées aux populations et répondre bien sûr à toutes les questions. C'est ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui dans Priorité Santé. Pour nous joindre, notre numéro WhatsApp 33 7 71 18 46 41. Vos questions sur le paludisme, transmission, symptômes, prévention, surveillance et stratégie d'élimination de cette maladie qui a tué 580 000 personnes en 2022, toujours d'après l'OMS. Et en studio, avec nous, professeur Nicolas Vignier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Avicenne APHP de Bobigny en Seine-Saint-Denis et maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord. Tout à l'heure, on va retrouver en Côte d'Ivoire le professeur Hervé Menant, chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est aussi vice-président de la Société africaine de parasitologie. Et puis en fin d'émission, on évoquera la situation au Soudan. 16% des blessés de guerre pris en charge par Médecins Sans Frontières dans l'hôpital de Bachar au sud de Soudan. Eh bien, 16% de ces blessés ont moins de 15 ans, enfants victimes des violences, de malnutrition préoccupante. On va donner la parole à Claire Sanfilippo, coordinatrice des urgences pour le Soudan à MSF.
Priorité santé sur RFI.
Et d'abord, c'est la base, reconnaître les symptômes du paludisme pour éviter ces complications, en particulier lorsque de jeunes enfants présentent des signes de cette infection parasitaire. Professeur Vignier, avec une question aussi simple qu'importante, comment expliquer que l'essentiel, 80% des décès liés au paludisme concernent aujourd'hui des tout-petits, des enfants de moins de 5 ans?
Eh bien déjà parce qu'ils y sont exposés dans les zones d'endémie, parce que le paludisme est transmis par la piqûre d'un moustique et que si les enfants ne sont pas bien protégés, notamment par la moustiquaire imprégnée, ils y sont exposés. Et après, en effet, ils en meurent beaucoup plus que les adultes parce qu'en fait, ils ont été moins exposés aux parasites et du coup, ils n'ont pas eu le temps de développer des anticorps contre ce parasite, une forme d'immunité. Donc l'immunité, elle n'est pas parfaite chez l'homme contre le paludisme, mais quand même, elle évite de faire des formes graves. Et quand on est tout petit, on n'a pas eu le temps encore de développer cette immunité. Et donc, si on fait le paludisme, comme les adultes, il y a un risque de formes graves et de décès.
On va parler beaucoup de prise en charge précoce pendant cette émission. Importance, professeur Vignier, d'identifier les symptômes. C'est le sens de la question d'Émile du Bénin. Question sur WhatsApp. Quels sont les symptômes du paludisme chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, d'ailleurs? Est-ce que les symptômes sont différents chez les tout-petits et chez les adultes?
Alors, il y a une constante, c'est la fièvre. Qu'on soit enfant ou adulte ou nourrisson, quand on a de la fièvre, toute fièvre est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'on nous apprend à la fac de médecine. Après, chez les tout-petits, en effet, comme ils ne s'expriment pas, les choses peuvent être un peu différentes. Donc, ça peut être un ralentissement, ça peut être des troubles digestifs, la diarrhée, les vomissements, des troubles de la conscience. Et donc, toute infection, de toute façon, chez le nourrisson, se manifeste souvent par des troubles du comportement et au maximum par des troubles de la conscience.
Ça veut dire grande fatigue, on n'a plus envie de manger, on a l'air abattu, c'est vraiment pas un bébé comme d'habitude.
C'est ça, on n'est pas comme d'habitude, on joue pas comme d'habitude, on n'interagit pas comme d'habitude, on refuse de boire, de s'alimenter, et donc ça, c'est pas normal, il faut voir un médecin, il faut faire un test.
Un test pour le diagnostic, justement, question de Ranès, pour distinguer le paludisme d'une infection qui sévit aussi en zone tropicale, c'est la typhoïde. Professeur Vignier, quelle différence entre ces deux maladies?
Alors, c'est pas du tout la même chose. La typhoïde, c'est une maladie qui est due à une bactérie qu'on attrape par ce qu'on appelle le péril fécal, c'est-à-dire les mains sales. Donc c'est une bactérie qui est relarguée par des personnes malades à travers la diarrhée et qu'on peut attraper en mangeant des aliments qui n'ont pas été bien lavés ou par les mains sales. C'est une maladie qui est quand même plutôt rare, hein, qui est beaucoup plus rare que le paludisme, mais qui peut aussi être grave. Alors que le paludisme, c'est une maladie due à un parasite qui est transmise par la piqûre d'un moustique dans les zones d'endémie, hein, le moustique Anopheles femelle. Donc c'est pas du tout le même mode de transmission. Après, les deux maladies peuvent donner de la fièvre et elles relèvent pas du même traitement. Hein, le traitement du paludisme, c'est un antiparasitaire et le traitement de la typhoïde, c'est un antibiotique.
Donc ça veut dire, Ranez, distinguer, différencier, l'essentiel, c'est le test. Hein.
Et ben, l'essentiel, c'est le recours précoce aux soins en cas de fièvre ou de diarrhée, et ensuite la réalisation d'un test rapide du paludisme qui va permettre de confirmer que c'est le paludisme et d'envisager un traitement précoce.
Autre question sur une autre infection, c'est Fidèle du Cameroun. Il demande s'il y a un lien entre le paludisme et la grippe. Parce que Fidèle a constaté qu'après une grippe, il finit toujours par avoir un paludisme. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de symptômes de la grippe peuvent être confondus avec ceux du palu. Pour autant, est-ce que c'est vraiment une grippe initiale ou est-ce que ce sont les premiers symptômes du palu ?
Alors là, il y a probablement une confusion parce que justement, les deux maladies peuvent donner des symptômes similaires, en particulier la fièvre, la fatigue, douleur dans les articulations. Mais la grippe et le paludisme, c'est bien deux maladies complètement différentes. Hein. La grippe, c'est un virus qu'on attrape par voie respiratoire plutôt pendant les saisons grippales, et le paludisme, comme on l'a dit, c'est une maladie transmise par un moustique. Donc parfois, certaines personnes prennent un paludisme pour une grippe, parce qu'on parle de syndrome grippal, mais si on fait le test rapide et qu'il est positif, bah c'est que ce n'est pas la grippe. C'est que c'est bien le paludisme et qu'il faut prendre un traitement. Et à l'inverse, si le test rapide est négatif et qu'on a de la fièvre avec des signes respiratoires, le nez qui coule, la toux, bah ça peut être tout à fait une grippe qui, dans ce cas-là, ne relève pas d'un traitement spécifique et qui guérit en général spontanément sans séquelles.
Un vecteur unique, hein, le moustique Anopheles, mais plusieurs parasites responsables du paludisme. Alors, est-ce qu'il y a précisément un lien, professeur Vigny, entre la nature du parasite et la gravité des symptômes? Ce qui nous renvoie à une question de Martial de RDC qui demande s'il y a plusieurs formes de paludisme grave et si oui, quelles sont les différentes formes?
Alors en effet, il y a différentes espèces de paludisme, hein, c'est ce qu'on a, donc les Plasmodium. La principale, c'est Plasmodium falciparum, et c'est la seule qui donne le paludisme grave, et c'est l'espèce qui est la plus fréquente en Afrique subsaharienne. Par contre, dans d'autres continents, et en particulier l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est une espèce qui est en recul, parce que la lutte a permis d'obtenir des succès. Par contre, il y a encore une fréquence importante d'autres espèces, et en particulier le Plasmodium vivax. Et le Plasmodium vivax, lui, donne moins souvent, beaucoup moins souvent, voire chez les personnes en bonne santé, rarement, des formes graves. Donc c'est gênant, ça donne de la fièvre, fatigue, mais c'est moins grave. Donc la lutte, elle est vraiment concentrée. Hein, l'OMS met ses efforts contre la forme qui donne le plus de grave et la mortalité chez les enfants dont on a parlé tout à l'heure, qui est Plasmodium falciparum.
Retour aux symptômes, question de Donatien de RDC qui demande pourquoi les malades du paludisme peuvent présenter des signes d'acidose et d'anémie. On va commencer par une petite définition de l'acidose, c'est quoi ?
Ben, l'acidose, c'est quand le sang est acide, au lieu d'avoir un pH neutre. Et du coup, c'est des choses qu'on voit dans les infections graves. Donc, ce n'est pas spécifique du paludisme, mais on voit ça aussi dans d'autres infections graves. Et donc, en effet, le paludisme peut entraîner une cascade de complications. Donc, ça peut entraîner une anémie, une baisse du nombre de globules rouges dans le sang, avec une fatigue intense et une difficulté pour le cœur à oxygéner le sang. Et si les choses s'enchaînent et que la cascade des complications se met en route, eh ben, on peut faire face à une acidose qui signe la gravité, qui pose l'indication d'hospitaliser le patient en réanimation pour recevoir des soins de support très rapidement, et en particulier le traitement du paludisme avec un traitement spécifique pour les paludismes graves qui s'administre uniquement par voie intraveineuse.
Et donc obligatoirement à l'hôpital.
Obligatoirement à l'hôpital, qu'on appelle l'artésunate. Hein, avant, on a beaucoup utilisé la quinine dans l'histoire du paludisme, mais dorénavant, on a un nouveau traitement du paludisme grave très efficace, qui est l'artésunate.
Mesmin de Paoua en Centrafrique, très intéressé par la vaccination. Je vous lis son message. Sa fille de 11 mois a été vaccinée il y a une dizaine de jours contre le paludisme. Après une petite fièvre, elle se porte bien. Mais avant d'être vaccinée, elle avait déjà fait un palu à 4 mois. Elle avait été soignée à l'hôpital. Mesmin explique, lui, qu'il fait 2 palus par an, au début à la fin de la saison des pluies. Il voudrait savoir si cette vaccination aujourd'hui réservée aux enfants, elle pourrait être étendue aux adultes.
Alors, Peut-être non pour les adultes parce que ça n'a pas été étudié, donc on n'en connaît pas l'apport et le bénéfice. Ça a été étudié principalement chez l'enfant. Par contre, c'est intéressant ici de rappeler l'apport de ce vaccin parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Mmh. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver un vaccin contre le paludisme et dorénavant on en a même deux. Alors c'est pas des vaccins efficaces à 100% comme la rougeole, la coqueluche, mais c'est efficace à 50%. Et comme il y a beaucoup de mortalité chez les enfants en bas âge en Afrique subsaharienne, c'est déjà une avancée majeure. Donc dorénavant, l'OMS recommande de vacciner tous les enfants en zone de forte endémie dès l'âge de 5 mois. Donc c'est normal que sa fille ait pu faire un paludisme à l'âge de 4 mois, parce qu'elle n'avait pas encore pu bénéficier de la vaccination. Les vaccins ne sont pas très efficaces chez les tout-petits. Mmh. Donc on est obligé d'attendre que l'immunité soit un petit peu mature pour faire les vaccins. Donc là, c'est 5 mois pour le vaccin paludisme. Et ça va être 4 doses qu'on va enchaîner à un mois d'intervalle. Et ça va permettre de réduire le nombre de cas de paludisme, mais aussi la mortalité chez les enfants. Donc on recommande fortement aux parents de faire vacciner leurs enfants.
Ouais. En continuant tout ce qui est prévention, dormir sous la moustiquaire, c'est pas l'un à la place de l'autre.
Non, parce que l'efficacité, c'est pas 100%. Donc il y a quand même un risque que les enfants fassent le paludisme et en fassent des complications. Et donc il faut aussi utiliser les autres outils de la lutte, à savoir la moustiquaire imprégnée et le recours aux soins précoces en cas de fièvre.
Alors beaucoup de questions d'auditeurs, tout de suite on part pour le Niger.
RFI à Niamey. 96.2 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Ali. Ali, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 59 ans, Ali. Vous souhaitez témoigner, poser des questions sur le traitement du paludisme. Est-ce que vous êtes fréquemment sujet à des crises de palu?
Oui. Au-delà de tout ça, il faut peut-être faire un petit historique. Si je peux me dire, le Niger, apparemment, nous sommes, en tout cas, je ne connais pas, si on fait un classement mondial, on peut être parmi les trois premiers où le paludisme fait du ravage. Donc, par le passé, moi, quand je fais un petit récap, je vois qu'en notre tendre jeunesse, quand vous avez le palu, c'était juste pendant la saison des pluies. Ouais. On se soignait à la Nivacine, une fois qu'on a trois injections de Kinemax, au cas grave, c'est fini. Ouais. Et puis, il faut l'année prochaine. Mais maintenant, je vous assure, c'est 12 mois sur 12. Mm. Au-delà de tout ça, on n'arrive plus à savoir exactement quel est le traitement qu'il faut faire. Chaque deux semaines, dès que vous faites la densité parasitaire, on est à 80, on est à 120. C'est à 80, 120 là.
Ça veut dire, si on vous comprend bien, Ali, vous êtes beaucoup plus souvent malade qu'avant et vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi?
Tout à fait. Presque chaque deux semaines, c'est le paludisme. Pour vous dire les choses, en 2022, il a fallu même qu'on me fasse une transfusion sanguine parce que j'avais souffert d'anémie. On me dit que le palud a été mal soigné. Ouais. Parce que quand on vous fait, même après avec le sérum, les médecins vous disent qu'il faut continuer avec la voie orale. Malheureusement, on m'avait dit, vous avez juste utilisé une seule boîte, il fallait continuer avec deux. Mais moi, je ne pouvais pas le savoir parce que je ne suis pas du domaine. Sinon, ça deviendrait de l'automédication.
Ça veut dire, Ali, que vous trouvez qu'aussi, vous n'avez pas forcément été très bien conseillé en termes de prise en charge?
Oui. Honnêtement, aujourd'hui, si vous voyez les gens au Niger, je ne connais pas quelqu'un qui va vous dire, voilà le traitement qu'on m'a fait pour que je sois guéri du paludisme. Ça n'existe pas. Ça, je le dis
en même temps, Ali, la guérison du paludisme, si vous êtes encore exposé au vecteur, à savoir si vous avez de nouvelles piqûres de moustiques, on va dire que le parasite, il est à nouveau introduit dans votre organisme. Donc, le médicament d'avant, il n'a pas pu soigner l'infection qui arrive après.
À un moment, il y avait des comprimés, là, je crois, maloxine ou quelque chose comme ça, qui était administré sous la forme préventive. Ouais. On dit quand vous prenez ça après le...
Ouais.
Après
j'ai une contracté. Question, je m'excuse de vous couper, Ali. Vous dormez sous la moustiquaire imprégnée?
Imprégné. J'utilise les insecticides.
Vous faites tout ce qu'il faut.
En fumée, là. Ouais. Oui, avec même la spirale, je vous assure.
Je vous crois.
On l'utilise. Ouais. Oui.
Professeur Vignier, Ali qui constate, c'est son vécu, qu'il est de plus en plus souvent et sujet à des crises de palu. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte et comment est-ce qu'on peut expliquer finalement qu'il n'y a plus trop de répit, y compris dans des régions où avant on disait saison sèche, saison humide, pas comme en Afrique centrale où là c'est toute l'année, mais là il y avait vraiment une coupure entre les saisons et maintenant les gens ont l'impression d'être tout le temps exposés aux vecteurs.
Oui, alors, donc, quel vecteur? Il y a aussi, il a parlé de vieux médicaments, la chloroquine et la quinine. Juste, je passe vite, mais pour dire que si on les utilise plus aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, malheureusement, la chloroquine a perdu son efficacité, parce que le parasite est devenu résistant à la chloroquine en Afrique. Donc, c'est pas qu'on veut pas l'utiliser, c'est qu'il ne marche plus. Et concernant la quinine, elle marche toujours, mais en fait, elle a quand même des effets indésirables. Et on a dorénavant des traitements plus modernes, qui sont mieux tolérés, qui sont privilégiés.
Tout à l'heure, Ali parlait, excusez-moi, d'un traitement préventif, je sais, c'est ce qu'on nous donne quand on voyage, quand on fait des missions, quand on travaille, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui se prend au long cours, 12 mois sur 12.
Alors, en tout cas, pas chez l'homme adulte comme Ali. Mmh. Par contre, c'est des choses qui sont utilisées quand même chez la femme enceinte et chez l'enfant. Mmh. Dans les zones où il y a beaucoup de paludisme. Et donc, pour un homme adulte comme Ali, la prévention, c'est en effet dormir sous la moustiquaire imprégnée, mais c'est aussi la lutte antivectorielle. Donc là, s'il fait beaucoup de cas de paludisme, a priori, c'est des cas qui sont indépendants les uns des autres. Le paludisme ne ressort pas comme ça toutes les deux semaines. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est réexposé un peu en permanence et qu'il y a un problème dans son lieu de vie et qu'il faudrait vraiment essayer d'éliminer les gîtes larvaires pour essayer de réduire ce risque.
Ali, à côté de chez vous, est-ce qu'il y a des caniveaux? Est-ce qu'il y a une petite mangrove? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, mangrove, je ne pense pas au Niger, mais en tout cas, un point d'eau qui pourrait être alimenté régulièrement? Il pourrait y avoir justement ces bébés moustiques qui vous énervent autant?
Mais Caroline, c'est que je suis à peu près un porte-voix, si je peux le dire actuellement.
Ouais, ouais.
90% des Nigériens, pour ne pas exagérer, souffrent actuellement là où je vous parle là de paludisme.
Ouais.
Il n'y a rien, il n'y a pas une entreprise qui marche aujourd'hui comme l'industrie du paludisme dans les pharmacies au Niger et les cliniques privées. C'est juste ça qui marche. Tout le monde souffre de paludisme actuellement là. Même un accidenté de la route, quand il va à l'hôpital, on fait la densité parasitaire. Il est paludéen. Personne n'arrive à comprendre cela. Et maintenant, la forme grave, c'est que nous n'avons plus de fièvre. C'est des courbatures, des céphalées. C'est de ça qu'on souffre. On se demande, il y a des médecins avec lesquels j'ai causé, ils me disent qu'il y a un nouveau moustique, il y a ceci, mais on dit que le paludisme a plusieurs phases. Finalement, je comprends qu'ils sont à bout de réflexion. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire.
Est-ce qu'autour de vous, vous voyez encore des grandes campagnes de sensibilisation, d'éradication du vecteur, on appelle ça la lutte antivectorielle, justement, faire à l'intérieur des maisons, mettre des insecticides, autour des maisons, se débarrasser des petits points d'eau. Est-ce que vous voyez tout ça avec une sorte de dynamique des autorités pour vous encadrer, pour vous aider?
Oui, pendant la saison de pluie, ils font ce qu'ils appellent l'épandage des produits, je ne sais pas comment c'est, un truc comme ça, épandage de produits qu'ils font là, avec un truc genre, un petit accroché à un véhicule, ils mettent ça, ils demandent aux gens de fermer les nourritures, les boissons, de les fermer, ils font ça. Ça, c'est pendant la saison de pluie. Et la capitale est devenue vraiment un peu plus grande, les autorités n'ont pas suffisamment de moyens pour couvrir toute la capitale comme avant. Mais les gens font de leur mieux et on n'arrive pas à avoir les insecticides même qui peuvent soigner correctement. Et pire encore, avec les moustiquaires imprégnés, là, des fois on a un problème de dermatose qui se fait et on dit de les exposer, on dit de les nettoyer. Finalement, ça devient compliqué. Les gels que nous avons, on les utilise, vous voyez les moustiques qui se posent sur vous. Donc finalement, on se demande exactement qu'est-ce qu'il nous faut.
Ouais, comment se protéger, on a bien compris.
Oui.
Merci Ali, très bonne journée à Niamey. Professeur Vigny, on va avoir d'autres auditeurs, d'autres questions dans quelques instants. On retrouvera l'un de vos confrères en ligne de Côte d'Ivoire juste après ce titre de Tenny, Case sur RFI.
Slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb a bridge for your case. Enter water for your case. I punch a judge for your case. Anything you want, baby. That's for you, baby.
Oh, If not to Zoki Gari, we go Zoki. What the hell are you waiting for? If not to Fry Akara, we go Fry. If not to Zoka Kamu, we go Zoki.
Priorité santé sur RFI, question sur le paludisme, prévention, prise en charge, toujours avec le professeur Nicolas Vignier, infectiologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et c'est maintenant à Grenoble qu'on retrouve Stéphane. Stéphane, bonjour.
Bonjour, Priorité santé.
Vous avez 42 ans, vous êtes installé en France depuis une dizaine d'années après une jeunesse en Afrique. Vous présentez régulièrement des symptômes. Quel type de symptômes ?
Alors, ce sont des symptômes de courbature, notamment à l'approche de l'été. À l'arrivée, avec l'arrivée de l'été, les deux premières semaines, des courbatures vraiment douloureuses au niveau du dos,
ouais.
Mais également au niveau des articulations, notamment des poignets. Mais plus au niveau du dos et de la plante des pieds, en fait.
Voilà. D'accord. Alors, on peut avoir des courbatures, des douleurs articulaires pour beaucoup de raisons. Pourquoi vous avez fait le lien avec le paludisme ?
Alors, déjà, hormis ces courbatures, j'ai souvent de la température. Et par la suite, j'ai consulté un médecin qui m'a fait savoir que des patients qui sont nés en Afrique, qui l'a souvent présenté, souvent certains de ces symptômes, et qui avaient le paludisme dans le sang.
Le paludisme dans le sang. Est-ce que vous avez consulté un rhumatologue, puisque c'est un problème articulaire ?
Rhumatologue, non, mais j'ai passé un examen pour autre chose, une sorte de check-up qui a révélé que j'avais le paludisme dans le sang, en fait. Des traces.
Des traces de paludisme dans le sang. Professeur Nicolas Vignier, avoir des traces de paludisme dans le sang, ça veut dire que dans le passé, peut-être dans la jeunesse, quand on a vécu en Afrique, on a développé un paludisme. Pour autant, est-ce qu'on va réavoir régulièrement comme ça ce que décrit Stéphane, des sortes de crises récurrentes périodiques ?
C'est difficile de répondre sans avoir le dossier médical de Stéphane, parce que ça dépend si ce qu'il appelle trace, c'était une sérologie ou un test rapide du paludisme. Mais si c'est une sérologie, c'est-à-dire des anticorps contre le paludisme, c'est pas forcément synonyme que le paludisme est là au moment où on en parle.
C'est un historique.
Ça peut être une trace qu'on y a été exposé dans le passé. Après, est-ce qu'il existe des formes de paludisme qui peuvent récidiver comme ça sur le long terme ? Oui, avec les espèces qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont pas les espèces falciparum, hein, les autres espèces.
Vivax, par exemple.
Vivax, ovale, malariae. Mais ces formes récidivantes, elles sont rares, elles sont exceptionnelles. Et en général, en France, quand on les diagnostique, on les traite et on résout le problème. Donc là, je suis un peu étonné quand même que ça dure depuis plusieurs années, que ça fait 10 ans qu'il est en France. Je me demande s'il n'y a pas autre chose qui se passe. Et là, c'est compliqué pour moi de répondre. Mais à mon avis, il faut quand même chercher un autre diagnostic. Et il faut faire un bilan avec, en effet, un rhumatologue ou un médecin interniste pour s'assurer qu'il n'y ait pas une maladie de système.
Stéphane, vous avez aussi une question, parce que vous avez en projet un voyage en Afrique prochainement, c'est ça ?
Oui, l'été prochain, donc j'appréhende un peu ce voyage. Mais À propos de ce voyage, je dois préalablement rencontrer mes médecins pour prendre des dispositions médicales en termes de prophylaxie.
Oui, ça c'est le parcours classique, hein, professeur Nicolas Vignier, y compris quand on est d'ascendance africaine, mais quand on est resté longtemps en zone, on va dire, du Nord, où on n'est pas exposé, il faut faire une consultation dédiée.
C'est indispensable parce que, en fait, souvent les personnes qui sont originaires d'Afrique pensent qu'elles sont protégées contre le paludisme, mais en fait, cette immunité partielle, une fois qu'on a quitté depuis plusieurs années son pays, on la perd. Et justement, nous, les patients qui sont hospitalisés dans nos services en France pour paludisme, c'est très majoritairement des personnes nées en Afrique qui sont retournées au pays et qui pensaient ne pas avoir besoin de protection. Donc, il faut absolument qu'ils consultent soit leur médecin traitant, soit dans un centre de consultation pour les voyageurs. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a dans le privé. Et là, on va leur proposer un traitement préventif. Donc, c'est un traitement sous forme de comprimé. Donc, soit la tobacone proguanil, soit la doxycycline qu'il faudra prendre tous les jours pendant tout le séjour et quelques jours après le retour. Et si ce traitement est pris régulièrement, bah, ça protège très efficacement du paludisme en complément de la moustiquaire.
Et dans une grande ville comme Grenoble, il y a un service de médecine tropicale hospitalier, c'est
bien
évident.
Bien sûr, au CHU de Grenoble.
Ouais. Voilà, au CHU de Grenoble. Merci beaucoup Stéphane pour votre appel. On part à Yaoundé au Cameroun où on retrouve maintenant Billy. Billy, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 56 ans, mais contrairement au reste de votre famille, pas de palu pour vous. Est-ce que vous avez cherché à avoir des explications finalement pourquoi vous avez cette chance de ne pas attraper le paludisme?
Oui, merci. Évidemment, j'ai rencontré un médecin. Il a essayé de m'expliquer que, généralement, puisque je suis AS, il m'a dit que parfois, ceux qui sont AS ne sont pas exposés au palu. L'OS protège souvent contre le palu.
Alors, AS, ça signifie que vous êtes porteur du trait drépanocytaire. Billy, professeur Nicolas Vignier, quel lien entre le paludisme et la drépanocytose?
Alors, en fait, le paludisme, c'est un parasite qui se multiplie dans les globules rouges, dans le sang. Et quand on a des globules rouges qui sont différents, c'est le cas des drépanocytaires SS, mais aussi des personnes qui sont porteurs d'un trait drépanocytaire, en fait, le paludisme est moins à même de se multiplier dans ces globules rouges. Et donc, c'est un peu paradoxal, mais le fait d'être atteint de ce trait ou de la maladie drépanocytose protège en partie contre le paludisme. Donc, c'est en effet quelque chose d'assez classique qui est observé dans les études épidémiologiques. Alors, ça ne veut pas dire que cette protection, elle est de 100%. Même si Billy a eu la chance de faire pas ou peu de cas dans sa vie, ça peut quand même exister. Donc, en cas de fièvre, il faut quand même consulter pour faire le test que ça peut être le paludisme.
Et dans votre entourage, il y a quelqu'un d'autre qui a ce trait AS et pourtant, c'est votre épouse, hein, c'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Pourtant, elle fait des palus.
Tout le temps, elle fait le palu, tout le temps. Ouais. J'ai même un enfant drépanocytaire qui fait rarement du palu par rapport aux autres enfants qui ont tout le temps le palu.
Ouais.
Oui. Donc, évidemment, on dort sous moustiquaire, mais comme je disais dans la préparation de l'émission, que c'est un peu sans objet, hein, parce que j'ai le sentiment que le moustiquaire imprégné ne protège pas contre le paludisme parce que, évidemment, d'expérience, quand les enfants ont plus de palud pendant la période des vacances que pendant la période de classe, parce qu'évidemment, pendant la période de vacances, ils sont tout le temps devant la télévision et dorment un peu plus tard. Et donc, lorsqu'ils vont se coucher, j'ai l'impression que les moustiques, évidemment, sont déjà repus. Et donc, évidemment, dormir sur le moustiquaire, évidemment, ne sert à rien.
Moi, quand vous me dites la moustiquaire ne sert à rien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne donne pas mon avis souvent dans cette émission, mais là, je vous le donne parce que oui et non. Grâce quand même, professeur Nicolas Vignier, aux distributions de moustiquaires imprégnées, on a vu les chiffres du palu reculer de manière, même si aujourd'hui ça stagne, mais en tout cas reculer de façon très spectaculaire pendant des dizaines d'années.
Oui, c'est ce que disait Ali tout à l'heure. Il ne faut pas faire passer de faux messages dans cette émission.
Ouais.
S'il y a une mesure de prévention qui marche et qui a démontré son efficacité, c'est la moustiquaire imprégnée. Après, est-ce que c'est du 100%? C'est jamais du 100%.
Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure aussi, même le vaccin, c'est pas du 100%.
Le vaccin
non plus.
Il faut
ajouter les moyens les uns aux autres.
Et après, par contre, ce que dit Billy est vrai, c'est-à-dire que la nofel, elle commence à piquer dès la tombée du jour. Donc, c'est vrai que si on tarde en soirée dehors, on peut être exposé avant d'être couché sous la moustiquaire. Mais là où elle pique le plus, vraiment son activité intensive, c'est en milieu de nuit. Et donc, en milieu de nuit, on dort, on est sous la moustiquaire. Donc, il faut continuer à dormir sous la moustiquaire, même si on a malgré tout fait un paludisme ou si on a vu des paludismes dans son entourage. Ça serait une erreur de renoncer à la moustiquaire.
Voilà. Merci beaucoup, Billy, pour votre témoignage. On part maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan.
97.6 FM.
En ligne avec nous, professeur Hervé Menant. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame Paré.
Vous êtes chef du département de parasitologie, mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'ai réussi en un seul coup. En Côte d'Ivoire, vous êtes aussi vice-président de la Société africaine de parasitologie. Professeur Menant, paludisme en Côte d'Ivoire, quelles sont les données dont vous disposez en ce qui concerne cette infection parasitaire pour votre pays, son incidence aujourd'hui ?
Alors, la dernière enquête de démographie et de santé de Côte d'Ivoire réalisée en 2021 a montré des indices plasmodiques, c'est-à-dire la proportion des personnes qui avaient des plasmodiums dans leur sang, de 11 à 75% chez les enfants de moins de 5 ans, en fonction des zones géographiques du pays. Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, cet indice plasmodique chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 18% en 2012 à 26% en 2021, donc une augmentation. Le taux est beaucoup plus élevé en milieu rural, 37%, qu'en milieu urbain, 13%. Alors, quant au taux d'incidence lui-même, c'est-à-dire le nombre de cas de paludisme pour 1000 habitants en une année, il a été de 992 pour 1000 en 2023 chez les enfants de moins de 5 ans et dans la population générale de 269 pour 1000. Nous avons enregistré en Côte d'Ivoire plus de 8 millions de cas de paludisme en 2023 et 1450 décès dus au paludisme.
C'est alors, énorme ce monde de cas et cette tendance, elle est absolument préoccupante. Comment justement comprendre ? Il y a de plus en plus de diffusion de ces moustiquaires, il y a des mesures qui sont prises et pourtant ça continue d'augmenter. Comment l'expliquer ?
Alors ça continue d'augmenter, mais déjà il faut noter qu'il y a de gros efforts qui sont faits pour la prise en charge parce que vous voyez 8 millions de cas, oui. Nous avons eu, j'ai failli dire que 1450 décès. Parce que les tests sont gratuits, les traitements également sont gratuits. Il y a eu de gros efforts de partenaires, du gouvernement pour le faire. Mais comme vous l'avez dit, il faut absolument travailler à faire réduire le nombre de cas. Alors, cela s'explique d'abord par le réchauffement climatique. Les moustiques prospèrent. Les moustiques sont dans des conditions, on va dire, plus agréables. Et donc, les moustiques continuent de transmettre de façon très intense le paludisme. Et malheureusement, les conditions de vie de la population n'ont pas vraiment changé, notamment en termes d'hygiène, en termes d'amélioration de tout ce qu'il y a comme lutte anti-vectorielle. Il n'y a pas eu véritablement un impact en termes de changement dans le cadre de vie de la population. Alors, et aussi, comme vous avez noté, on a un réel problème en termes d'application des mesures de prévention par la population.
Avec un certain nombre de fausses croyances. En même temps, quand on tombe tout le temps malade, il y a un moment donné, on perd un petit peu l'énergie pour se protéger. On peut aussi le comprendre. Professeur Menant, on va prendre en ligne une auditrice à Abidjan. C'est vous, Barakissa, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors,
bonjour,
vous faites, professeur. Vous faites souvent des crises de palu, Barakissa, avec quels symptômes ?
Les céphalées, des vomissements.
Oui.
Et souvent des hyperthermies.
Donc, grosse fièvre. Quand vous allez à l'hôpital, on vous propose quel traitement ?
Bon, en préventif ?
Non, je dis à l'hôpital en curatif. Qu'est-ce que vous êtes soigné comment quand vous allez à l'hôpital ?
Je fais des analyses.
Oui.
Après les analyses, dès que les résultats sortent, on nous rappelle pour une ordonnance.
D'accord. Et entre deux crises de palu, est-ce que vous prenez justement un traitement préventif ? Ce traitement préventif, qui vous conseille pour le prendre ?
Ah, c'est le pharmacien.
Oui. Et il vous conseille de prendre quoi ?
Du co-arénate en préventif.
En préventif. J'ai un spécialiste du palu en ligne d'Abidjan. J'ai un spécialiste du palu à côté de moi, professeur Menant. Ce médicament que prend Barakissa en prévention, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le co-arénate, c'est une combinaison thérapeutique à base de dérivés d'artémisinine qui doit être pris uniquement que pour traiter le paludisme et non pour prévenir le paludisme.
Et ça, c'est très important de le dire. Il faut le dire, professeur Menant, on ne prend pas n'importe quel médicament contre le palu à n'importe quel moment. Il y a bien la distinction entre la prévention et le médicament qui soigne la crise.
C'est bien cela. Parce que pour traiter le paludisme, on utilise plusieurs médicaments en un. Donc, dans le seul comprimé de co-arénate, vous avez de l'artésunate, de la sulfaméthoxypyrazine, de la pyrimétamine. Donc, quand vous prenez ce type de médicament au long cours, vous agressez votre foie et vous agressez votre rein, vous pouvez avoir une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale. Donc, c'est très grave de le prendre en préventif. Ce type de médicament, d'ailleurs, toutes les CTA, les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'atemzine, ne doivent être utilisées que pendant 3 jours. Et on ne peut pas les reprendre comme cela. Il faut attendre au moins 2 semaines avant de les reprendre si jamais il y a une situation de rechute.
Professeur Menant, excusez-moi, vous observez souvent justement ce type d'initiative de la part de pharmaciens, parce qu'on n'est pas dans l'automédication puisqu'il y a eu un conseil d'un professionnel de santé. Mais malgré tout, vous nous dites que c'est vraiment préjudiciable pour la santé, non seulement de cette auditrice, mais aussi pour la santé de la population en général, parce que ça permet davantage de résistance. Donc comment ça se fait qu'il y ait encore ce genre de conseil complètement contre-productif qui soit donné ?
Bon, il faudrait déjà vérifier que ce soit un pharmacien qui l'a dit. Est-ce que ce n'est pas un vendeur en pharmacie ?
D'accord.
Ça, c'est la première des choses. Quoi qu'il en soit, il faut appliquer les mesures donc données par le Programme national de lutte contre le paludisme, notamment le schéma thérapeutique. Dans les situations, justement, de récidive ou de paludisme chronique, dans ce type de cas, on demande aux patients, dans le schéma, on demande aux patients de faire un traitement avec une CTA pendant 3 jours. Après cela, le patient devra prendre chaque 2 semaines la sulfadoxine pyrimétamine, donc la SP, 3 comprimés chaque 2 semaines pendant 3 à 6 mois. Donc ça permet de pouvoir avoir une certaine dose du médicament pour les personnes qui ont effectivement des rechutes.
Donc ça, c'est la bonne prévention. C'est ce qui est conseillé en termes de prévention.
Exactement.
Donc on entend bien le conseil du professionnel à qui il faut faire confiance. Barakissa, vous aviez aussi une autre question, s'il vous plaît, sur les premiers gestes quand on a une crise de palud, quand les premiers symptômes arrivent. Pourquoi vous avez eu quoi comme symptômes, vous ?
Des céphalées, des vomissements, des convulsions.
Ah, des convulsions. Alors moi, je vous pose une question, Barakissa. Quand vous avez ces symptômes, vous mettez combien de temps avant d'aller consulter à l'hôpital ? Parce que moi, quand je vous entends, je me dis, il faut y aller tout de suite, en fait.
Oui, mais en attendant, je dois calmer la fièvre.
En attendant quoi ? Parce que si vous avez ces symptômes, en fait, c'est juste le trajet, le temps d'aller au centre de soins ou à l'hôpital qui dure. Donc, vous voulez prendre quoi entre les deux ? Je ne comprends pas. Je comprends pas bien ce que vous voulez prendre entre les deux.
Soit un paracétamol ou un efferalcan.
D'accord, je comprends. Professeur Menant, est-ce que ça peut la soulager, Barakissa, quand elle est en crise, au début d'une crise de palud ? Qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant d'être diagnostiquée, d'être testée à l'hôpital ? Professeur Menant, est-ce que vous êtes là ? Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
J'ai entendu parler de convulsions.
Oui, tout à fait.
S'il y a effectivement de la convulsion, s'il s'agit de paludisme grave, si effectivement cela est prouvé biologiquement, Barakissa doit aller très rapidement à l'hôpital pour être prise en charge à l'hôpital pour un traitement selon le protocole du traitement du paludisme grave. Elle ne peut pas attendre et prendre du paracétamol. C'est vraiment très, très dangereux. Cela peut affecter un certain nombre de fonctions cognitives. Donc, il faut absolument qu'elle aille très rapidement à l'hôpital en cas de convulsion.
On a bien compris ce message. C'est un cas d'urgence absolue. Barakissa, un grand merci pour votre appel. Professeur Menant, conclusion, il y a le programme national de lutte en Côte d'Ivoire, il y a la distribution gratuite de moustiquaires. Sur quel point il faut particulièrement insister aujourd'hui pour faire reculer le paludisme dans votre pays ?
Alors, il faut que la population applique les mesures. Vous avez parlé effectivement de la moustiquaire, les grilles aux portes, aux fenêtres, éliminer tout ce qu'il y a comme gîte lavaire, donc les boîtes de conserve, les puneux, mais également, surtout, sensibiliser à l'adhésion à la vaccination des enfants de moins de 5 ans. Il faut que la population adhère à cela. Ça a été introduit dans le programme élargi de vaccination. Et je pense qu'avec l'ensemble de ces mesures, on devrait pouvoir avoir une inflexion, n'est-ce pas, du portage de ce parasite. Alors, je rajoute également qu'il y a la chimioprophylaxie pérenne avec la sulfadoxine pyrimétamine, donc qui est une stratégie qui est en train de se mettre en place. Donc, en mettant et le vaccin et cette chimioprophylaxie chez les enfants de moins de 5 ans, nous espérons avoir de très, très bons résultats d'ici peu.
Ça veut dire surtout faire baisser cette mortalité infantile. Un grand merci à vous, professeur Hervé Menant, pour votre éclairage. Bonne journée en Côte d'Ivoire. On arrive à la conclusion de notre échange. On a parlé, on pourrait faire une émission là-dessus, Réchauffement climatique et paludisme, professeur Nicolas Vignier, c'est vraiment quelque chose qui est certifié. On observe justement une augmentation du risque de transmission à cause de ces conditions environnementales.
Alors notamment, en tout cas, oui, la géographie d'extension de l'anophèle s'accroît, mais pas que, hein, aussi des Aedes qui sont présentes par exemple en France, où on voit plus de cas de dengue et de chikungunya. Mais c'est aussi le recul des programmes de lutte suite au Covid,
ouais.
Où il y a eu beaucoup d'arrêts ou de retards ou de problèmes financiers. Et puis peut-être aussi des nouveaux vecteurs un petit peu plus agressifs. Mais juste, si je peux me permettre, j'aimerais enfoncer le clou là qu'a été... enfoncé par mon collègue sur les dérivés d'artémisime. Il ne faut surtout pas prendre ça en préventif, parce que sinon le parasite va devenir résistant, comme on l'a observé en Asie. Et il ne faut pas le prendre dans les pharmacies, mais il ne faut pas le prendre non plus en décoction, parce que là, l'artémisime est aussi proposé par beaucoup de phytothérapeutes comme des traitements préventifs ou curatifs. Ce n'est pas un traitement qui est efficace, et en plus c'est susceptible de faire émerger des résistances. Donc ce n'est pas des bonnes pratiques. Donc il faut vraiment consulter un médecin et prendre les traitements qui sont recommandés.
Les bons conseils. Merci professeur Vignier, merci pour toutes ces explications. On va parler dans quelques instants de la crise humanitaire au Soudan, juste après ce titre de Kubla avec Bababa.
J'arrive en pétard sur la bécane dans ta tête. Et si ton père ne veut pas pour la dot, moi je vis de la caisse. J'suis plutôt fêtard et tu le sais, j'te parle en vrai. J'suis pas l'homme dont tu rêvais, par nom français. Pourquoi faire des folies? J'sais que tu le sais. Te perdre c'est ma phobie. J'deviens bête. Et quand tu plais, tu sais ça me fait de la peine. Pendant des heures, je cherche à faire la paix. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. On se verra de temps en temps. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. On se verra de temps en temps. Rien que tu pénètes, je suis pas seul, on se parle après. J'ai dit allô, allô, ah, désolé, j't'en double appel. Pour avoir la paix, faut passer par la guerre. Nous deux, on fait la paire. J'ai plus le temps à perdre, tu diras à ta famille d'y arracher ton cœur. Pourquoi faire des folies? J'sais que tu le sais. Te perdre, c'est ma phobie. J'deviens bête. Et quand tu plais, tu sais, ça me fait de la peine. Pendant des heures, je cherche à faire la paix. Ba, ba, ba.
Situation humanitaire au Soudan, le pays en proie à la guerre civile depuis avril 2023, avec le très lourd tribut payé par les populations civiles. On en parle maintenant avec la coordinatrice des urgences pour ce pays, le Soudan, à Médecins sans frontières, Claire Sanfilippo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien comprendre la situation, est-ce que vous disposez de chiffres qui pourraient nous donner l'idée de l'ampleur de la catastrophe que vit en ce moment la population soudanaise ?
Tout à fait. Malheureusement, depuis le 15 avril 2023 et le début des combats, le Soudan connaît l'une des pires crises humanitaires, l'une des pires crises de ces dernières décennies. Les combats ont causé des dizaines de milliers de morts et de blessés et engendré la plus grande crise de déplacement au monde. D'après les Nations Unies, plus de 11 millions de personnes, soit une personne sur cinq, vivant au Soudan, ont été forcées de fuir leur domicile. Nombreuses d'entre elles ont été déplacées plusieurs fois et vivent aujourd'hui dans des camps où la situation sanitaire est fondamentalement déplorable. D'après les Nations Unies encore, 25 millions de personnes, donc la moitié des personnes vivant au Soudan, a besoin d'une aide humanitaire et le même nombre est en situation de crise alimentaire. Cette situation est donc absolument catastrophique.
Sur le plan sanitaire, ça fait lien avec le sujet qu'on a traité pendant l'émission, le paludisme. Ça veut dire que les personnes sont déplacées, des infrastructures de santé ont été détruites. Et il y a donc des conséquences directes sur le plan des infections.
Exactement. On considère que uniquement 20 à 30% des établissements de santé sont opérationnels dans les zones qui sont les plus affectées par le conflit, à savoir l'État de Khartoum, toutes les régions du Darfour et du Kordofan au sud du pays. Et donc évidemment, les besoins médicaux sont aujourd'hui alarmants. L'accès aux soins des populations est entravé par de multiples barrières. La violence, l'insécurité empêchent beaucoup de personnes de se rendre dans les structures de santé. Si vous réussissez à venir dans une structure de santé, manque le personnel soignant, mais manque aussi beaucoup les médicaments à cause d'obstructions par les parties belligérantes qui sont un véritable frein à la réponse humanitaire. Les conséquences sont sans appel et ce que nous voyons sur le terrain sont véritablement de multiples crises sanitaires. Mmh. La première est fondamentalement la violence qui demeure un véritable fléau. Et nous avons reçu un médecin sans frontières seulement dans le sud de Khartoum, dans l'hôpital d'Al-Bashayr, plus de 4200 patients qui ont été victimes de blessures liées au conflit cette année. C'est une moyenne de 13 personnes par jour. Donc c'est évidemment un problème très grave.
Et parmi ces blessés, ces personnes qui sont donc meurtries dans leur chair, vous avez constaté énormément d'enfants.
Tout à fait. Une personne sur six. Une personne sur six qui arrive blessée de guerre, souvent blessée par balle ou blessée par des explosions, est un enfant de moins de 15 ans. La situation est donc extrêmement préoccupante. Nous avons reçu un bébé qui a été frappé alors qu'il faisait la sieste dans la maison familiale, et nos équipes médicales ont mis plus de 4 heures à essayer de sauver la vie de cet enfant.
En plus, il y a donc ces atteintes directes, et puis au long cours, une malnutrition, on va dire véritablement une épidémie dans le pays, et là encore, les enfants en première ligne.
Tout à fait, une véritable épidémie de malnutrition. Les chiffres sont catastrophiques. Nous avons mené plusieurs enquêtes nutritionnelles dans les camps dans lesquels nous travaillons et les lieux dans lesquels nous travaillons, notamment au Darfour, dans le camp de Zamzam, qui est situé dans le Darfour du Nord et qui héberge aujourd'hui, on estime, entre 350 000 et 500 000 de personnes. Et nous avons estimé que plus de 30% des enfants souffraient de malnutrition aiguë. Pour donner une référence, le taux d'urgence, d'après l'Organisation mondiale de la santé, est 15%. Donc, c'est deux fois plus grave que le taux d'urgence. Donc, à ce stade, on ne parle plus d'une urgence. On parle vraiment, je pense, on devrait parler d'un cauchemar. On a trouvé une proportion équivalente aussi au sud du Darfour, dans la capitale, à Niala. Et dans l'hôpital de Khartoum dont je parlais à l'instant, nous avons vu, sur les 3 dernières semaines, nous avons dépisté pour malnutrition plus de 4000 femmes enceintes et allaitantes et enfants, et plus de 1500 d'entre eux souffraient de malnutrition aiguë sévère.
Une véritable catastrophe à l'échelle d'un pays. Un grand merci à vous, Claire Sanfilippo, pour votre éclairage. Notre émission touche à sa fin. Demain, un sujet un peu plus léger. On va parler des soins des cheveux, du cuir chevelu, différentes affections, comment les traiter. Des spécialistes de la santé capillaire à votre écoute. On se retrouve à 9h10. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.